L'homme est bien supérieur à l'animal parce qu'il est capable de fabriquer des armes qui lui permettent d'exterminer ses congénères. Que pensez-vous de cette affirmation? Moi, elle me met mal à l'aise parce que même si c'est une simplification facile, elle est vraie. En effet, l'animal chasse quand il a faim, puis il fait la sieste. Mais l'homme tue pour satisfaire des passions qu'il est incapable de contrôler. Et c'est un être orgueilleux qui fait des excès en tout genre. C'est en tout cas de cette manière que l'Éternel décrit le peuple chaldéen. Je continue à lire dans le second chapitre du livre du prophète Habacuc. Voici, il est enflé d'orgueil, il n'est pas droit de cœur. Certes, le vin est traître et l'homme hautain ne reste pas tranquille. Tel le séjour des morts, il ouvre une large bouche et comme la mort, il n'est jamais rassasié, car il ajoute à ses conquêtes nation après nation et il rassemble tous les peuples sous sa domination. Versets 4 et 5. L'homme hautain qui ne reste pas tranquille, c'est le chaldéen, c'est-à-dire l'empire babylonien. Le mot hébreu pour hautain n'apparaît qu'ici et dans le proverbe où il est dit « Le moqueur est un homme arrogant et hautain qui agit poussé par un orgueil démesuré. » Littéralement, le texte dit « L'arrogant, l'hautain, moqueur est son nom. » Dans les écrits de la sagesse israélite, le terme de moqueur a un sens bien plus dur que pour nous, car il désigne quelqu'un qui se place au-dessus de toute règle morale, et c'était bien ainsi que se conduisaient les Chaldéens qui ne connaissaient qu'une seule loi, la leur, et celle qu'ils imposaient au peuple conquis. Dans le verset que je viens de lire, et par la bouche de son prophète, l'Éternel reproche aux Babyloniens deux conduites coupables, les excès de vin et leur conquête insatiable. On aurait pu leur appliquer cette menace du prophète Ésaïe qui écrit « Malheur à vous qui courez de bonne heure après les boissons enivrantes et qui vous attardez le soir excité par le vin ». L'expression « le vin est traître » qu'utilise Habacuc était un proverbe qui avait cours au Moyen-Orient. Cette pensée est développée dans le livre des Proverbes de l'Ancien Testament où il est écrit « Le vin est plein d'insolence et l'alcool rempli de tapage. Celui qui s'en laisse griser ne pourra être sage ». L'alcool est effectivement trompeur et perfide, parce qu'au lieu de donner force et vie à ceux qui s'y adonnent, il les détruit. Un autre proverbe de l'Ancien Testament dit « Ne couve pas de tes regards le vin vermeil quand il brille de son éclat dans la coupe. Il descend si aisément, mais finit par mordre comme un serpent et te piquer comme une vipère ». Nous savons par les historiens antiques que les Babyloniens étaient très épris de boissons alcoolisées. Ils buvaient autant la sève fermentée du palmier que du vin de raisin qu'ils importaient. Les habitants de Babylone, qui en avaient les moyens, étaient connus pour leur beuverie. Ce fut d'ailleurs au moment où Balthazar, le dernier roi de l'Empire babylonien, se livrait à tous les excès de son intempérance, que Babylone tomba aux mains du roi perse Cyrus. Je lis ce passage. Un jour, le roi Balthazar organisa un banquet en l'honneur de ses 1000 dignitaires et se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, Balthazar ordonna d'apporter les coupes d'or et d'argent que Nabuchodonosor, son père, avait rapportées du temple de Jérusalem. Il avait l'intention de s'en servir pour boire, lui et ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines. Aussitôt, on apporta les coupes d'or qui avaient été prises dans le temple de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Après avoir bu du vin, ils se mirent à louer les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Fin de citation. Une immense partouze avec beuverie et le reste est déjà un gros travers. Mais le problème est devenu bien plus grave une fois que les convives étaient bien éméchés, car ils ont alors dépassé les limites en commettant un crime de lèse-majesté envers le Dieu des cieux. Ils ont bu dans la vaisselle sacrée du temple de Jérusalem, vaisselle qui ne pouvait être utilisée que par les prêtres de l'Éternel et à des fins cultuelles. Cette très mauvaise idée de la part de cette bande d'ivrognes a signé leur arrêt de mort. La conduite de Balthazar est d'autant plus scandaleuse qu'il sait très bien qui est l'Éternel, puisque son grand-père, Nabuchodonosor, l'a reconnu comme le seul Dieu véritable, qu'il l'honorait et le louait. D'autre part, même lorsque Nabuchodonosor est encore le païen idolâtre pur et dur qui a détruit Jérusalem, il s'est conduit d'une manière respectueuse envers la vaisselle sacrée du temple. Certes, il l'a déposée dans la maison de son dieu préféré, mais ne s'en est jamais servi. Balthazar n'a donc aucune excuse à son actif pour justifier son comportement. Il est parfaitement conscient d'insulter l'Éternel quand il prend la décision de profaner les coupes sacrées. En organisant cette beuverie, le roi révélait à quel point il est hautain. Il se montre dédaigneux d'une part vis-à-vis de ses ennemis qu'il croit incapables de prendre Babylone, et d'autre part envers le dieu des Hébreux qu'il considère comme un dieu inférieur. Excité par le vin, les dignitaires présomptueux manifestent une insolence moqueuse en bravant l'Éternel. Mais ça ne leur suffit encore pas. Il a fallu qu'ils mettent le comble à leur comportement odieux en se livrant à une idolâtrie de bas étage. Mais ce faisant, ils ont enfoncé le dernier clou dans leur cercueil. La coupe de la colère de Dieu a débordé et la suite du texte dit « À ce moment-là apparurent soudain devant le candélabre les doigts d'une main humaine qui se mirent à écrire sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette main qui écrivait. Alors son visage devint blême, des pensées terrifiantes l'assaillirent. Il se mit à trembler de tout son être et ses genoux s'entrechoquèrent. Les devins et sages de Babylone sont alors appelés en toute hâte, mais ils se révèlent incapables de déchiffrer l'écriture que la main invisible a tracée parce que ce ne sont pas des mots d'une langue connue, comme l'araméen, le phénicien ou l'hébreu, qui sont apparus sur le mur, mais des signes idéographiques, genre hiéroglyphes. Or, ils sont incompréhensibles sans une illumination divine. En dernier recours, on appelle Daniel, que le roi Balthazar regarde de très haut en l'appelant « ce Daniel, qui fait partie des exilés de Juda », c'est-à-dire le pays dont il méprise le Dieu. Il ne devrait pas trop s'élever, car sa chute n'en sera que plus douloureuse. Cependant, Daniel ne se laisse pas démonter, au contraire, il reprend vertement le roi pour sa conduite idolâtre, puis ajoute « le Dieu qui tient ton souffle de vie dans sa main ». Et de qui dépend toute ta destinée, tu ne l'as pas honoré. C'est pourquoi il a envoyé cette main pour tracer cette inscription. Voici ce qui a été tracé. Mené, Mené, Tegel, Uparsine. L'inscription se composait seulement de 4 mots, concis et secs comme un coup de trique. Daniel révèle alors la signification de cette mystérieuse inscription. Il dit. Et voici l'explication de ces mots. Mené, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tegel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Uparsine, ton royaume sera brisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Fin de citation. Voilà comment cette beuverie du roi Balthazar a tourné court et s'est terminée par la prise de Babylone par Cyrus. Par l'intermédiaire d'Habacuc, Dieu reproche aux Chaldéens premièrement, leurs excès de boissons fortes, et deuxièmement, leur soif insatiable de nouvelles conquêtes. Habacuc les compare au séjour des morts qui, tel un monstre hideux, avale les êtres vivants à la pelle et ne dit jamais assez. Et en effet, Babylone ouvrait grande ses mâchoires pour dévorer tous les peuples qu'elle trouvait à se mettre sous la dent. Dans une certaine mesure, l'abus des boissons fortes et le désir insatiable de conquérir sont comparables dans le sens que tous deux sont des excès qui mènent au désastre. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Tout comme l'abus d'alcool conduit à l'ignominie, la poursuite inlassable de nouveaux territoires précipitera finalement les Chaldéens à la ruine. Cependant, avant que cela n'arrive, les Israélites du royaume de Juda, qui sont pourtant le peuple de Dieu, boiront eux aussi la coupe de la colère de Dieu. Le prophète Ésaïe, prophétisant contre Jérusalem, écrit « C'est pourquoi le séjour des morts fera gonfler sa gorge et démesurément élargira sa bouche. Les dignitaires de la ville et sa foule bruyante y descendront ensemble, et leur joyeux tumulte s'en ira avec eux. C'est pourquoi tous les hommes devront courber le dos, ils seront humiliés, et tous les orgueilleux devront baisser les yeux. Cette menace fut accomplie en l'an 587-86 avant Jésus-Christ, lorsque Nabuchodonosor détruisit Jérusalem. S'il est toujours facile de condamner autrui pour le mal qu'il nous fait, il faut retenir des paroles d'Ésaïe que tous les hommes devront courber le dos, ils seront humiliés et tous les orgueilleux devront baisser les yeux. Habacuc continue sa prophétie contre Babylone à l'aide d'un chant satirique et menaçant. Il écrit « Mais un jour, tous ces peuples ne lanceront-ils pas contre lui un chant satirique et des paroles ironiques ?» Verset 6. Ce chant est mis dans la bouche des nations qui ont souffert sous la botte babylonienne. Le mot pour chant désigne une composition poétique construite sur le principe du parallélisme, c'est-à-dire la répétition de la même idée sous une forme différente. Ce chant peut être une parabole, un proverbe, une ballade, un sonnet ou un hymne funèbre, comme c'est le cas ici. Ce chant se compose de 5 strophes de 3 versets chacune, qui débutent toutes par le mot « malheur » et qui annoncent le jugement qui atteindra Babylone. Le Chaldéen est d'abord accusé d'être un conquérant avide et pillard. Puis un chef orgueilleux qui bâtit une dynastie, et dans la troisième strophe, il est comparé à un souverain cruel, un esclavagiste qui exploite sans pitié le travail et les forces des peuples vaincus. Dans la quatrième, il est décrit comme un moqueur qui se réjouit de l'opprobre d'autrui. Enfin, dans la cinquième, comme idolâtre. Alors que les 4 premières strophes expliquent en quoi le Chaldéen est un tyran et un oppresseur des peuples, la cinquième et dernière relève son péché principal qui est l'idolâtrie et la cause première de sa ruine à venir. Je continue le texte d'Habacuc. Malheur aux accapareurs, et l'on dira malheur à lui, car il amasse des richesses qui ne sont pas à lui. Jusqu'à quand cela va-t-il durer? Il accumule un lourd fardeau de dettes. Verset 6. C'est ici le premier des 5 malheurs à lui qui sont prononcés contre Babylone. Cette menace, malheur à, est très fréquente dans les écrits prophétiques. Comme l'écrit Habacuc, l'Éternel va se servir des Chaldéens pour punir Juda, son peuple, mais ensuite il réglera ses comptes avec eux. Il avait fait de même avec les Assyriens, qui furent son instrument pour juger le royaume israélite des 10 tribus du Nord. Mais comme ceux-ci avaient outrepassé leur rôle, l'Éternel prononça une sentence contre eux. Il a dit « Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère !» Comme cela a déjà été noté, l'Éternel reproche aux Chaldéens d'ajouter sans cesse des conquêtes injustes à leur possession. Ils se comportent comme des usuriers sans entrailles, des bandits de grand chemin qui, l'arme au poing, arrachent au peuple des biens qu'ils ne devraient pas leur prendre. Mais un jour, ils devront les restituer. Un proverbe dit « Bien mal acquis ne profite jamais ». L'Éternel a dit à notre ancêtre Adam qu'il devra tirer son pain du sol à la sueur de son front. Il s'ensuit que ceux qui vivent de rapine ou au crochet des autres, quelle que soit la manière dont ils s'y prennent, s'opposent à l'ordre divin. Le prophète Ésaïe écrit « Semblable à la perdrix qui a couvé des œufs qu'elle n'a pas pondus, est l'homme qui amasse des richesses acquises injustement. Au milieu de sa vie, sa fortune le quitte et il montre finalement qu'il est un insensé. » En France et dans tous les pays nantis, nous avons les resquilleurs des services sociaux qui font du tort à tous. Mais ce n'est évidemment pas aussi grave que ce qu'on appelle le grand banditisme, dont faisait partie la rapine des Chaldéens qui accumulaient les biens d'autrui à la pointe de l'épée. Cependant, dit Habacuc, ces richesses constituaient un lourd fardeau de dettes qui finira par les écraser. Car l'Éternel, leur créancier, veillera à ce que Babylone disparaisse de la surface de la terre. Le prophète Jérémie écrit « Malheur au méchant, le désastre est sur lui, car il devra payer selon ce qu'il a fait. » Mais comme Habacuc entrevoit que le jour du jugement des Chaldéens est encore bien lointain, il demande à Dieu « Jusques à quand cela va-t-il durer ? Jusques à quand vont-ils piller impunément d'autres peuples ?» C'est déjà la troisième fois qu'Habacuc utilise cette même question, ce qui est sa façon d'exprimer son découragement. Cependant, s'il dit à Dieu ce qu'il pense, c'est sans révolte. Au contraire, il se met à son écoute dans une attitude remarquable de soumission et de confiance. Il n'y a aucun mal à crier à l'Éternel de la sorte. Au contraire, Dieu veut qu'on l'invoque. Dans un psaume, le roi David écrit « Je suis en plein désarroi. Quand viendras-tu donc, Éternel, à mon secours ?» Et bien avant David, environ 5 siècles plus tôt, Moïse aussi rédigeait un psaume dans lequel il implorait Dieu, disant « Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel, jusque à quand tarderas-tu encore? Aie pitié de tes serviteurs !» Je continue maintenant avec le second verset de la première strophe de l'hymne funèbre destiné à Babylone. « Ceux qui te mordront ne vont-ils pas soudain se lever ? Ceux qui te secourront avec violence ne vont-ils pas s'éveiller ? Tu deviendras leur butin !» Verset 7. En hébreu, les mots pour « mordre » et pour « usurier » ont la même racine qui se compose des 3 mêmes consonnes. Il n'y a que les voyelles qui changent légèrement. Ces 2 mots sont donc étymologiquement très voisins et il n'y a pas besoin d'être bien futé pour saisir la similitude entre « mordre » et réclamer une dette. Comme Babylone a cruellement traité les autres, en retour, elle sera traitée de la même manière. Ceux que les Babyloniens ont dépossédés et qui semblaient endormis et inoffensifs vont se ressaisir pour leur rendre l'appareil. Une coalition emmenée par les Perses détruisit Babylone aussi rapidement que celle-ci avait anéanti Ninive, la capitale des Assyriens. Le même scénario se reproduira une fois encore, à la fin des temps, avec la nouvelle Babylone. Je lis le passage. Les marchands qui s'étaient enrichis par leur commerce avec elle diront « Quel malheur ! Quel malheur ! La grande ville qui se drapait de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles, en une heure tant de richesses ont été réduites à néant !» Je continue avec le 3e verset de la première strophe de l'hymne funèbre destiné à Babylone. « Toi qui as dépouillé des nations innombrables, tu seras dépouillé par les peuples qui restent, pour avoir répandu le sang des hommes et pour avoir commis des actes de violence contre le pays de Juda, sa ville et tous ses habitants. » Verset 8. Les peuples qui ont été forcés à se soumettre à Babylone se lèveront pour faire payer aux Chaldéens le sang qu'ils ont versé. Ces nations rassemblées sous la bannière perse incluent les Élamites et les Mèdes qui avaient souffert sous la botte de Nabuchodonosor ainsi qu'une myriade d'autres peuplades et tribus. Ils ont tous pour but de se venger en appliquant la loi du talion. Un proverbe de l'Ancien Testament dit « Qui sème l'injustice moissonnera le malheur, et son règne de terreur prendra fin. » Et le prophète Jérémie écrit « Moi l'Éternel, j'enverrai contre Babylone des étrangers pour la vanner, et ils feront le vide dans son pays, car au jour du malheur, ils surgiront de tous côtés contre elle. Ceux qui seront frappés à mort joncheront le pays des Chaldéens. » Parce que Babylone avait rayé Juda de la carte des nations, les prophètes Ésaïe et Jérémie écrivent respectivement « Voici ce que déclare l'Éternel, votre libérateur, moi, le Saint d'Israël. C'est à cause de vous que j'envoie une armée combattre Babylone et que je fais descendre tous les Chaldéens qui s'enfuient sur les navires même où ils criaient de joie. Aiguisez bien les flèches, prenez vos boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois des Mèdes car il a résolu de ruiner Babylone. » Ce sera la rétribution que l'Éternel exercera, ainsi il lui fera payer ce qu'elle a fait contre son temple. » Fin de citation. Une fois encore, il est utile de rappeler les paroles menaçantes de l'apôtre Paul qui écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. »